Laurent Diret des Nouvelles,
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est une exposition impressionnante que nous allons visiter aujourd'hui. On peut y admirer des portraits d'époque, des pistolets à silex, des épées et des sabres, mais aussi force bicorne ou habits de généraux portés par Napoléon ou par son entourage. On y trouve aussi la longue vue utilisée par Bonaparte pendant la bataille des pyramides ou la cuirasse du carabinier Fauveau, une pièce impressionnante donc, puisqu'on y remarque l'impact du boulet de canon britannique qui a tué son propriétaire à Waterloo. Mais c'est aussi et peut-être surtout une exposition qui nous place dans la tête, dans le cerveau de Napoléon lui-même. Même, comme nous le raconte l'affiche, où est-il allé puiser sa science militaire? Par quelles actions d'éclat a-t-il pris toute sa dimension? Comment le stratège préparait-il ses campagnes? Comment les remportait-il? Comment ses succès, puis ses défaites, ont-ils coïncidé avec sa montée en puissance politique et avec sa chute? L'exposition Napoléon Stratège est à visiter jusqu'au 22 juillet au musée de l'armée aux Invalides à Paris, et vous m'en direz des nouvelles.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes conservateur en chef du patrimoine au département moderne du musée de l'armée. Vous faites partie du commissariat de cette exposition. Napoléon et les Invalides, c'est une longue histoire. On peut dire que Napoléon y est un peu chez lui aux Invalides.
Napoléon est complètement chez lui aux Invalides, il y est encore.
Oui, c'est là qu'il repose. Il revient du monde entier pour voir son tombeau. Il y a la statue qui domine la cour d'honneur. Et les collections regorgent de trésors de l'épopée napoléonienne.
Les collections ont été constituées pour la plupart à la fin du XIXe siècle à partir de très nombreux dons et notamment de descendants des familles qui ont fait la guerre sous l'Empire ou qui ont fait leur fortune, leur réputation pendant les guerres de l'Empire. Et effectivement, parmi celles-ci, il y a des uniformes, des pièces très prestigieuses venant des plus grands généraux, mais aussi des objets tout simples de la vie quotidienne des soldats de cette époque. Et à travers ces objets-là, c'est toute une histoire qui se raconte.
Rien d'étonnant donc à ce que Napoléon reçoive régulièrement les honneurs du musée de l'armée. Alors vous étiez venu ici même en 2013 nous parler de l'exposition Napoléon et l'Europe. Il y a eu ensuite en 2016 Napoléon à Sainte-Hélène. Voici donc Napoléon stratège. Et j'évoquais l'affiche à l'instant, c'est très clair. Hein. L'idée c'est vraiment de nous emmener dans la tête, dans le cerveau de Napoléon.
Oui. Alors peut-être pas pour comprendre comment il fonctionne, mais au moins pour comprendre ce que l'on y trouve, d'où vient ce qu'on appelle encore aujourd'hui parfois avec grandiloquence le génie militaire de Napoléon. Qui était-il? Et je trouve que cette approche tout à fait stimulante pour nous, qui nous a permis d'éviter notamment une chronologie ou une typologie un peu rébarbative peut-être des batailles, cette approche stimulante nous a permis de partir d'un point de départ très simple. Et ça fait du bien de temps en temps, Napoléon était un être humain.
Ah,
oui.
Vous êtes sûr?
Absolument.
C'est attesté par les historiens?
C'est fort possible en tous les cas.
Napoléon était un être humain, donc avec ses forces, ses faiblesses, avec ses automatismes aussi.
Ses années de formation également, les gens, les lectures, les événements qui l'ont influencé, le contexte dans lequel il est apparu. Et en ce sens, on rentre dans la tête de Napoléon, tout doucement, en commençant par comprendre quelle est sa culture, et qu'on partage aussi une certaine culture commune avec lui.
Et oui, parce qu'avant d'entrer dans l'exposition proprement dite, il y a une sorte d'antichambre comme ça, quelques murs, avec des citations qui montre combien le cinéma ou la littérature se sont nourris hein, du guerrier Napoléon, l'homme des conquêtes, l'homme chef de guerre finalement. Et c'est peut-être la première image que la culture renvoie de lui avant l'homme politique, même si on peut jamais séparer les deux.
On peut pas séparer les deux, d'abord parce que dans Stratège il y a politique, mais je crois que vous voulez y revenir tout à l'heure.
Bien sûr.
Je vais pas déflorer le sujet, mais effectivement parce que ce qui fascine notamment dans les représentations qui qu'elles soient figurées ou qu'elles soient écrites qui nous parviennent de lui, c'est cette figure en quelque sorte solitaire, héroïque, la redingote grise et le petit chapeau au sommet d'une colline dominant l'ensemble des opérations, la lorgnette à la main.
Alors la lorgnette, elle est dans l'exposition. En tout cas, une des lorgnettes, il y en a plusieurs.
Oui.
La redingote grise et le bicorne aussi. Hein.
Oui, alors il y a même 5 des 6 bicornes que nous conservons aux Invalides. Le 6e étant ayant récemment pris le camion pour aller à Varsovie. Je ne saurais trop vous dire que vous n'en verrez que très rarement davantage, puisque on a vraiment l'ensemble des ou presque l'ensemble des chapeaux qui sont conservés, donc du consulat jusqu'à Sainte-Hélène.
Alors parmi les noms que l'on retrouve sur les murs de cette antichambre, donc de l'endroit par lequel nous pénétrons dans cette exposition, il y a Conrad, Dumas, Hugo, Balzac, Tolstoï, Heinrich Heine, mais il y a aussi des contemporains comme Patrick Rambaud, comme Arturo Pérez Reverte ou Romain Puertolas. Et puis j'avais complètement oublié ces deux chiens-là.
Lafayette. Hé, hey, Lafayette. Lafayette.
Oui, bah je suis là.
Écoute, j'entends un bruit de roue.
Oh, Napoléon, nous avons mordu 6 pneus aujourd'hui. Couru après 4 autos, une bicyclette et une moto.
Chut, tais-toi. C'est une motocyclette. 2 cylindres, transmission par chaîne. Et une roue voilée. Une roue voilée à l'avant, on dirait. Alors toi, tu attaques sur les flancs, et moi j'attaque quand l'ennemi est désarçonné.
Mais pourquoi c'est jamais toi la première vague d'assaut?
Parce que je suis le chef, voilà pourquoi. Cesse de rouspéter et sonne la charge. Tu sonnes la soupe.
De toute façon, c'est une sonnerie.
Je peux très bien te remplacer, tu sais.
Bon, sonnons la charge.
Arrête, trompette, c'est moi qui suis le chef. C'est moi qui décide quand on y va. Alors on y va. Changez !
Napoléon et Lafayette, les deux chiens des Aristochats, le film de Walt Disney sorti en 1970. C'est moi le chef, hein, il le répète, hein, le personnage de Napoléon, Emily Robb. C'est assez bien vu parce que ça résume assez bien finalement le mode de fonctionnement de Napoléon.
Ah oui, ça le résume tout à fait. Hein, comme il l'a écrit lui-même au major général de la Grande Armée, Berthier. Tenez-vous-en aux ordres, moi seul sais ce que je dois faire.
Voilà, donc au moins comme ça, les choses sont claires.
C'est très clair, le système est complètement défini. Il n'y a qu'un seul et unique homme au centre de ce système qui joue le rôle de pièce déterminante. Autour de lui, ceux qu'on a incorporés dans l'exposition, ou incarnés, sous la forme de leurs uniformes, tels que le maréchal Lannes, le maréchal Davout, ou encore le général Drouot qui commandait l'artillerie de la garde, le général Bertrand. Tout cela sont de simples exécutants, et dans ce système-là, c'est à la fois la force entière, puisque la capacité de travail, le coup d'œil, la capacité d'analyse, de traitement de l'information qu'a Napoléon sont phénoménales. Et d'un autre côté, eh bien, la pièce a aussi un revers, et en quelque sorte, l'histoire ne s'est pas écrite et n'est pas arrivée sans hasard.
Alors cette stature napoléonienne, d'entrée, vous la comparez au plus grand stratège militaire. Hein, le visiteur, si j'ose dire, passe en revue les troupes, il passe devant une série de bustes installés en rang d'oignon. Hein, il y a Alexandre le Grand, Hannibal, Jules César, Turenne, Saxe et Frédéric II de Prusse. On peut parler comme ça d'une lignée de grands stratèges dont Napoléon serait l'un des épigones.
Alors c'est pas tout à fait nous qui avons fait cette galerie en fait.
Ah.
C'est la galerie de Napoléon.
Ce sont ses grands hommes à lui ?
Ce sont ses grands hommes à lui. Alors ce sont pas les seuls de ces grands hommes, mais on sait déjà que Napoléon les a lu soit leur histoire, soit les traités qu'ils ont eux-mêmes écrits. Et par ailleurs, on sait également, ce sont 4 des 6 bustes que nous présentons là, les autres nous n'avons pas leur version galerie des Tuileries, mais on sait que Napoléon en était entouré, puisque pour ce qui est notamment de César, du maréchal de Saxe, d'Hannibal et de Frédéric II de Prusse, ce sont des bustes qu'il avait fait commander en 1802 pour la galerie des Tuileries, la galerie des consuls au palais des Tuileries. Donc ce sont ces grands hommes, parmi 22, il avait choisi notamment ceux qui sont des grands chefs militaires et parfois aussi des grands hommes politiques.
Mais alors en quoi Napoléon a-t-il une vision novatrice? En quoi sort-il du lot, si j'ose dire, à son époque?
Alors Napoléon sort du lot à son époque, déjà parce qu'il se donne tous les moyens de le faire et aussi parce que son époque le lui permet.
Donc il saisit les occasions et en même temps il y a cette ambition chevillée au corps.
Il a une confiance en lui absolument inébranlable, tout jeune, qui fait que au siège de Toulon, sa première opération sur le terrain, ou presque, au siège
1793,
de Toulon. Il commande l'artillerie seulement et il est capable d'écrire au gouvernement, au ministre de la guerre lui-même, que le plan du général qui commande l'ensemble de l'opération est ridicule. que si on veut vraiment remporter ce siège, il faut suivre le plan du capitaine Bonaparte. Dans l'exposition, donc, est présenté notamment ce document tout à fait exceptionnel de plusieurs pages, dans lequel Bonaparte décrit le plan qui finalement est mise en place, mais sous l'autorité d'un autre général. Et il faut vraiment beaucoup d'audace, beaucoup de confiance en soi, beaucoup d'ambition pour être capable de faire ça.
Oui, l'audace, c'est vraiment la première arme de l'ambition militaire et politique napoléonienne.
Je crois que, étant donné sa conformation d'esprit, son pragmatisme et aussi son opportunisme qui font qu'il est au sens positif du terme, c'est-à-dire qu'il ne s'interdit rien. Il ne s'interdit aucune occasion possible. Et en ce sens, oui, cette audace-là le fait avancer.
Alors cette audace, on s'en rend compte par exemple lors de la bataille du pont de Lodi qui oppose Français et Autrichiens le 10 mai 1796 et qui conclut la deuxième partie de la campagne d'Italie. On le comprend en regardant la maquette absolument splendide, le plan relief, que comme on dit, que vous exposez. Un plan relief qui a été construit à l'époque, à la demande de Bonaparte.
Alors, il n'a pas tout à fait été fait en 1796.
Oui,
il a été fait en 1800, à peu près aux alentours de 1802.
D'accord. Et donc c'est un plan relief
d'époque.
Pour le
premier consul, c'est un plan relief d'époque. Et il a été conçu précisément parce que Bonaparte, considérant la grande qualité tactique de la victoire qu'il avait remportée sur les Autrichiens à Lodi, s'est dit qu'il fallait en garder un témoignage de façon à instruire les futurs officiers.
Voilà, et pour instruire les futurs officiers et les visiteurs de cette exposition, il y a une bande-son avec un comédien qui lit les mots mêmes de Napoléon tels qu'il les a écrits beaucoup plus tard, hein, lorsqu'il était à Sainte-Hélène. Extrait.
Je résolus de passer le pont de l'Adda sous le feu des ennemis et de les étonner par une opération hardie. En conséquence, après quelques heures de repos dans l'Audi, sur les 5 heures du soir, j'ordonnai au général Beaumont, commandant de la cavalerie, de passer l'Adda à une demi-lieue au-dessus, où se trouvait un guet praticable en ce moment et, aussitôt qu'il serait sur l'autre rive, d'engager la canonnade avec une batterie d'artillerie légère sur le flanc droit de l'ennemi. En même temps, je plaçais au débouché du pont et sur la rive droite toute l'artillerie disponible de l'armée, la dirigeant sur les pièces ennemies qui enfilaient le pont. Je formais les grenadiers en colonne serrée derrière le rempart de la ville qui borde l'Adda, où elle se trouvait plus près des batteries ennemies que la ligne même de l'infanterie autrichienne, qui s'était éloignée de la rivière pour profiter d'un pli de terrain qui la mettait en partie à l'abri des boulets des batteries françaises. Dès que je vis le feu de l'ennemi se ralentir et la cavalerie française commencer à se former sur la rive gauche, je fis battre la charge. La tête de la colonne se trouva sur le pont qu'elle traversa en peu de secondes au pas de course. Elle tomba sur la ligne ennemie, l'enfonça, la contraignit de se retirer dans le plus grand désordre avec la perte de son artillerie, de plusieurs drapeaux et de 2500 prisonniers. Une action si vigoureuse, exécutée sous un feu si meurtrier, mais conduite avec toute la prudence convenable, a été regardée par les militaires comme une des actions les plus brillantes de la guerre.
Et là, Émilie Robb, on est au cœur donc de la stratégie du général en chef de l'armée d'Italie. On est encore sous le directoire. Et la science de la guerre, qui est celle de Bonaparte, apparaît au grand jour. Vous revenez évidemment dans l'exposition sur la formation militaire qu'il a reçue. Il a appris tout ce qu'il sait dans les livres, mais aussi dans les études. Quoi. C'est un brillant étudiant de l'école de guerre.
C'est un brillant étudiant. Alors, peut-être au moins autant à l'école militaire, puisqu'il est passé par Brienne, par l'école militaire à Paris, et d'ailleurs l'exposition présente ces deux brevets de cadet gentilhomme et de jeune lieutenant, prêtés par les archives nationales. Mais c'est surtout un bibliophage invétéré. Napoléon lit tout ce qui lui tombe sous la main. Alors c'est pour ça que l'exposition, non contente de présenter quelques traités militaires de l'époque ou plus anciens mais qui faisaient encore autorité, présente aussi Buffon, Rousseau, Machiavel, parce que la pensée de Napoléon dépasse l'art militaire. On dirait que dès sa formation, son ambition et sa culture sont aussi insatiables et que quelque part, le fait que d'un brillant officier il y soit devenu un brillant général, puis un chef d'État, de cette envergure-là, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient sans doute de cette immense ouverture d'esprit qui ne s'interdit rien, qui ne s'arrêtera in fine, à rien du tout, à aucun obstacle.
Alors, il y a la culture livresque, il y a l'apprentissage, notamment à l'école de Brienne, et puis il y a aussi le progrès technique de la science des armes de l'époque, et il s'appuie en particulier sur une innovation importante qui n'est pas arrivée avec lui, hein, qui était déjà là au moment de la Révolution, hein, je parle sous votre contrôle, le système d'artillerie Gribeauval. Alors, de quoi s'agit-il exactement, Émilie Robe ?
Effectivement, au moment où Napoléon apparaît sur la scène militaire, il est encore le jeune Bonaparte, voire Napoléon et des Buonaparte, et il intervient dans un contexte qui est tout à fait favorable aussi à l'émergence de talents tels que le sien et à leur reconnaissance, au moins au niveau de l'État. Il concentre entre ses mains, au moment où il prend la tête des armées, donc d'une partie des armées de la Révolution, deux types d'héritage. L'un d'entre eux, c'est la qualité de l'armée royale très bien équipée et par ailleurs assez bien entraînée, qui est redevenue l'une des meilleures d'Europe à la fin du XVIIIe siècle, en s'appuyant notamment sur le système mis au point par Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval, premier inspecteur de l'artillerie du roi, qui a mis en place un système plus léger, plus mobile, mieux coordonné, avec un nombre de pièces plus réduit, et qui permet notamment de distinguer entre plusieurs types de services en adaptant au mieux les moyens aux objectifs.
Donc ce sont des canons.
Ce sont des canons. Merci beaucoup.
Oui, merci pour cette
précision, mais il est vrai que le système de Gribeauval est un système qui compte beaucoup sur la fabrication et les modes de fabrication, avec en privilégiant notamment la fabrication très précise de pièces vérifiées. C'est un genre de pionnier du contrôle qualité et de l'interchangeabilité des pièces.
Oui.
Et en ce sens, il englobe également la fabrication de l'armement personnel. Donc aussi les fusils, les mousquetons, les carabines des soldats de l'époque. C'est son premier héritage.
Oui. Donc l'armement. Et le second ?
Alors l'armement et l'entraînement. Le second, c'est la révolution qui l'apporte, avec la démultiplication des effectifs, notamment avec la conscription, et puis avec les guerres incessantes qui permettent à l'armée française de se confronter, de passer l'épreuve du feu.
Oui, et puis sa force aussi, c'est d'utiliser les périodes de paix, parce qu'il devient empereur en 1802, et de 1802 à 1805, c'est une période de paix, et lui, il prépare la guerre.
Alors en fait, Napoléon est premier consul de 1799 et jusqu'à 1804. Et cette période-là est une période pendant laquelle il essaye effectivement de nombreux traités de paix avec l'Europe jusqu'à 1802, qui est une date cruciale en effet, qui signe la paix avec l'Angleterre. Et 1802, c'est la période où la France n'est plus en guerre contre aucun des pays d'Europe après ce traité d'Amiens. Entre 1802 et 1804, la situation se dégrade. De là à dire que Napoléon prépare la guerre, il n'y a évidemment qu'un pas. Et il faut effectivement comprendre comment ça marche. C'est que la légitimité de ce Napoléon-là, de ce premier consul Bonaparte, qui devient empereur Napoléon Ier quelques temps plus tard, sa légitimité repose sur la victoire. In fine, lui qui a tant voulu faire la paix, ne peut s'arrêter à cette paix-là, puisqu'elle le met systématiquement en danger. Quand il fait peur à l'Europe, alors son pouvoir c'est le moment où son pouvoir est le mieux assis.
Thank you. BMDN avec Émilie Robbe autour de l'exposition Napoléon Stratège jusqu'au 22 juillet aux Invalides, au musée de l'armée à Paris. Alors, le mot stratège, Émilie Robbe, et vous l'évoquez dans l'exposition, il signifie littéralement chef d'armée, donc c'est un général en quelque sorte, hein, c'est un mot qui date de l'Antiquité, mais le mot stratégie, lui, il est apparu beaucoup plus tard. Il serait apparu en 1820. On peut dire que c'est autour de Napoléon qu'il a été forgé, le mot stratégie.
C'est tout à fait exact. Entre stratège et stratégie, il y a notamment le mot stratagème qui laisse penser que l'art militaire pourrait être une série de recettes, voire de ruses. Mais en effet, le mot stratégie n'apparaît qu'au moment où Napoléon lui-même a terminé sa carrière de général. Il est assez clair que l'art militaire existait néanmoins avant l'invention du mot. Mais il est aussi, pour quelqu'un qui a notre regard de 100 ans plus tard, il est aussi assez clair que l'art militaire, selon Napoléon, que lui-même appelait la grande tactique, n'est pas du tout étranger à l'apparition d'un nouveau mot. Alors ce nouveau mot, Napoléon, qu'il a lu dans la traduction d'un ouvrage de l'archiduc Charles, l'un de ses ennemis les plus affûtés, Charles de Habsbourg d'Autriche, Napoléon, qu'il a lu à ce moment-là, ne l'a pas trouvé à son goût et a simplement assez mal vécu ce néologisme, considérant qu'il valait mieux utiliser l'ancien mot, la grande tactique, ça lui parlait plus.
D'accord, alors quelle différence justement entre la tactique et la stratégie ?
Alors, sur le plan de l'époque de Napoléon, déjà perçait cette distinction qui aujourd'hui est même tripartite entre opératif, stratégique et tactique, et c'est une question d'échelle. Pour faire très très court, la stratégie, c'est la façon dont on applique les moyens militaires, dont on met en œuvre des moyens militaires qui doivent permettre de remplir un objectif politique. Donc on définit la campagne, on prend les décisions, on choisit les moyens, on s'organise, et ça nous emmène jusqu'au moment où deux armées sur le terrain se font face.
D'accord. Donc l'affrontement.
L'affrontement, c'est autre chose. La façon dont vous allez choisir d'utiliser plutôt votre cavalerie, votre artillerie ou votre infanterie à tel moment d'une bataille, la façon dont vous allez disposer vos troupes sur le terrain, dont vous allez réagir à l'ennemi, essayer plutôt de l'envelopper ou de l'attaquer par le centre, créer des diversions, etc. Ça, c'est la tactique.
Voilà, donc différence effectivement d'échelle. Alors évidemment, avant de se lancer dans une campagne, donc avec ses objectifs stratégiques, politiques et diplomatiques, il faut bien y réfléchir et vous montrer comment Napoléon prépare ses campagnes dans l'exposition Émilie Robbe. Il s'appuie notamment sur ce que l'on appellerait aujourd'hui, ce qu'on appelait déjà peut-être d'ailleurs à l'époque, le renseignement.
Le renseignement est une étape indispensable, tout à fait crucial, et que Napoléon maîtrise de bout en bout par plusieurs aspects. D'abord, il continue à aimer lire et il lit beaucoup des ouvrages dont il s'entoure sont des documents de travail. C'est même encore le cas à Sainte-Hélène dans sa bibliothèque. On a disposé, nous, sur le bureau de campagne de Napoléon face à son siège, sur lequel on a négligemment posé un chapeau comme s'il venait de le quitter à l'instant, on a disposé un ouvrage sur l'histoire de l'Angleterre. Et ça montre bien que le renseignement pour Napoléon, c'est tout ce que l'on peut trouver. Donc la lecture, les récits de voyage, les ouvrages de géographie, aussi les rapports qui lui remontent directement des unités et à propos desquels il prend lui aussi directement des décisions. Donc, à la lecture d'un rapport, si on lui dit « il nous manque 300 gibernes », alors il écrit immédiatement au ministre de la guerre en disant « envoyez 300 gibernes ».
C'est quoi une giberne ? Pardonnez-moi. Mais
c'est un petit sac en cuir dans lequel le soldat range les nécessaires pour produire ses cartouches. Donc, si vous voulez, c'est le transport des munitions.
D'accord. Donc, il y a ces rapports. Donc, il y a effectivement les livres. Il y a des espions aussi. Il y a des gens qui sont déployés sur le terrain.
Oui, il y a des espions déployés sur le terrain. Alors, la petite histoire que raconte notre exposition, c'est notamment celle du colonel de Beaumont, que tout le monde connaît sans le connaître, puisqu'on a un laissez-passer au nom de ce colonel de Beaumont, tout à fait classique. Chaque personne qui rencontre ce colonel est censée se mettre à sa disposition pour permettre la meilleure réalisation de sa mission. Et en face, la lettre de mission qui correspond au nombre exact des tâches à accomplir, aux renseignements que Napoléon cherche en envoyant son espion en Allemagne, sauf que son espion, Beaumont, est un joli nom, mais c'est un pseudonyme pour Murat.
Pour Murat, effectivement, donc qui deviendra
qui est déjà maréchal,
qui est déjà maréchal d'Empire.
Déjà maréchal au moment où il est envoyé en mission. Et c'est une des autres forces de Napoléon. Il emploie à ses missions les hommes les plus adaptés, ceux dans lesquels il a le plus confiance, il les connaît très bien. L'autre aspect, le dernier aspect du renseignement, c'est son extraordinaire connaissance des cartes, du terrain. Ce sont les travaux de ses ingénieurs géographes, notamment, qui vont en reconnaissance, qui lui permettent de mettre à jour systématiquement à la fois la carte et la disposition des troupes ennemies face à lui.
Tout ce que j'ai prévu se déroule. L'ennemi se jette en masse sur notre droite. Quelle faute. Ils sont les plus nombreux, ils auraient pu m'attaquer, non. Ce qu'ils veulent, c'est me couper la route de Vienne et capturer l'armée entière. Ils me croient donc bien jeune. Je ne change rien à mes dispositifs. Je veux confondre leur orgueil et terminer cette guerre par un coup de foudre. Il faut que dans une demi-heure, la ligne entière soit toute en feu et qu'à 4 heures cet après-midi, les armées ennemies soient détruites. Allez, messieurs, je vous regarde.
Cavalerie par ici. Allez, dominez-vous.
Quelle heure ? 7 heures, sire.
Regardez, sire. Les hauteurs du plateau de Pratzen se dégarnissent. Et vos ennemis descendent comme un torrent et se dirigent sur les nappes de brouillard où se cachent vos troupes. C'est le moment.
Quand l'ennemi fait un faux mouvement, il faut bien se garder de l'interrompre. Combien vous faut-il de temps pour couronner les hauteurs de Pratzen ?
Moins de 2 minutes.
Soult, prépare-toi à faire le plus beau travail de ta vie, mais reviens vers moi. Je veux que tu ne partes que sur mon ordre.
Un extrait du film d'Abel Gance, Austerlitz, en 1960, avec Pierre Mondy dans le rôle de l'empereur. Émilie Robbe, on l'entend dans cet extrait, Napoléon parle aux généraux, Soult notamment. Il s'adresse aussi directement aux soldats. Il les harangue, il est proche d'eux dans tous les sens du terme. Et ça, pour l'homme de troupe, ça n'a pas de prix. C'est extrêmement important.
C'est très important aussi pour celui qui mène l'homme de troupe, et notamment parce que Napoléon, devenu général sous la Révolution, pouvait, encore en 1800 par exemple, proclamer que la guerre avait comme légitimité la défense de la patrie en danger, l'expansion en Europe, des idées de la liberté, etc. Devenu empereur, il continue à se présenter comme l'héritier, le continuateur de la Révolution, mais il lui est plus difficile de légitimer ainsi ses actes de guerre. Et en s'appuyant sur l'image qu'il a auprès de ses hommes, image qu'il a lui-même savamment construite, orchestrée, même si tout n'est pas pur calcul de sa part, même s'il préfère manger et vivre simplement, ce qui le rapproche de ses hommes, en ce faisant, les hommes sont prêts non plus forcément à mourir pour la liberté ou pour la révolution, mais à mourir pour l'empereur. C'est le sens de la veillée d'Austerlitz. Entre autres, au moment où son visage se présente parmi les soldats, tous les feux sont allumés et les cris de « Vive l'empereur » résonnent. Napoléon sait les récompenser, sait les motiver, il leur donne les aigles des régiments qui font leur fierté.
Il inscrit des victoires sur les drapeaux.
Voilà, aussi, il décerne sa propre légion d'honneur en général sur le champ de bataille, alors comme il en a plusieurs, heureusement.
Oui.
Et puis il laisse également planer sur eux l'ombre d'une promotion immédiate et méritée sur le champ de bataille, l'image qui en a été donnée ensuite par le roi Louis XVIII où tout soldat aurait dans sa giberne le bâton de maréchal de monsieur Oudinot.
Oui, c'est lui qui a rétabli le maréchalat. Napoléon
donc, a rétabli effectivement le maréchalat sous le nom de maréchal de l'Empire, la notion s'étant, la dignité s'étant éteinte au début de la Révolution.
Alors, parmi les nombreuses phrases que vous mettez en exergue, phrases de Napoléon à travers ce parcours dans l'exposition, il y a celle-ci qui en dit long. Le meilleur soldat, disait Napoléon, n'est pas tant celui qui se bat que celui qui marche. Et ça, effectivement, c'est très très important parce que l'intendance, si je veux dire, pour lui, c'est quelque chose de fondamental.
Alors, le meilleur soldat n'est pas tant celui qui se bat que celui qui marche. Ça correspond tellement bien à la pensée de Napoléon qu'effectivement, on a voulu mettre cette phrase-là, parmi beaucoup d'autres qu'on aurait pu choisir, en exergue sur les 6 messes de l'exposition. Ça veut simplement dire une chose, c'est que la stratégie selon Napoléon, c'est d'aller plus vite que l'ennemi à un endroit où celui-ci ne l'attend pas. ça lui permet de le prendre par surprise. Et un combat commencé par la surprise vous donne immédiatement un avantage. Alors, les soldats marchent plus vite, font moins d'étapes, ont un bagage léger, dorment au bivouac sans construire de camp. Et puis, surtout, Napoléon organise, c'est l'un de ses très grands talents, Napoléon organise autour de lui un corps d'artillerie et du génie, notamment par la professionnalisation et la militarisation de ce qu'on appelle le train d'artillerie. Il organise un équipement, un soutien technique, technologique, qui lui permet de franchir des ponts là où aucun autre général ennemi n'irait, ou de passer le Mont-Saint-Bernard.
Donc des activités, des hommes spécialisés dans le transport de matériel, dans le transport des armes, dans les uniformes, dans la nourriture aussi, évidemment. Très important pour une armée. Et il utilise ce qui roule, mais aussi peut-être plus encore les chevaux. C'est vraiment quelque chose de très important.
Effectivement, quand on envisage aujourd'hui les effectifs d'une armée, on compte les hommes. Si on ne compte que les hommes, par exemple au moment de la campagne de Russie, on a oublié presque la moitié des effectifs. Les chevaux, on fait la guerre avec les pieds des fantassins, mais les chevaux qui portent les officiers, qui constituent la remonte de cavalerie, qui tirent les canons, qui tirent les bagages, les chevaux sont des compagnons indispensables du soldat, et en tant que tel, un élément très important à prendre en compte dans l'approvisionnement. Il leur faut du foin, il leur faut des soins, il leur faut à boire,
toutes les conditions nécessaires. Et comment est-ce qu'il entretient le moral des troupes? Alors, ce général, puis empereur Napoléon.
Alors, d'une manière générale, on a évoqué le système de récompense. Napoléon est aussi un très grand communicant. La partie dans laquelle il excelle, c'est le discours. Alors, il sait s'adresser à ses hommes, il sait s'adresser à eux en se mettant à leur niveau. Et puis, il écrit aussi, presque directement, ses bulletins, les fameux bulletins de la Grande Armée, qui lui permettent de raconter les faits comme il voudrait qu'on s'en souvienne.
Ah, il enjolive un tout petit peu.
Parfois vraiment beaucoup.
Bon, à l'inverse, il fait tout pour casser le moral de l'ennemi, et ça se traduit aussi sur le terrain, hein, dans sa tactique. Pour le coup, vous expliquez par exemple dans l'exposition qu'il envoie ses hommes vers les capitales, et c'est important parce que ça casse complètement toute la machine politique et administrative de l'ennemi.
Oui, c'est même pas juste les démoraliser. Les démoraliser, on prend leur drapeau, par exemple, l'honneur du régiment. On fait des prisonniers, ou bien on pille leurs bagages. Mais là, la prise de la capitale ennemie, c'est l'objectif stratégique ultime et prioritaire. Napoléon va vite pour essayer de déclencher en position d'avantage une bataille décisive, une bataille majeure. Et après cette bataille, il va encore plus vite prendre la capitale de l'ennemi pour paraliser ses décisions, empêcher tout renfort de venir et se permettre de dicter les conditions de paix qui sont les siennes.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Émilie Robbe, il y a deux parties assez distinctes dans votre exposition. La première évoque les succès et l'autre partie les défaites de Napoléon. À quel moment est-ce que se situe le point de bascule ?
Le point de bascule dans l'exposition, il n'est pas, comme l'exposition n'est pas non plus complètement chronologique, il n'est pas aussi parfaitement sensible que ce qu'on pourrait faire en regardant dans la série des événements. Et puis, en fonction du point de vue qu'on adopte, du centre d'intérêt que l'on choisit, il est aux environs de 1810.
Qu'est-ce qui se passe aux environs de 1810?
Eh bien, il y a la guerre contre l'Autriche en 1809, qui est déjà remportée avec beaucoup plus de difficultés que les campagnes précédentes. Il y a l'extension maximale de l'Empire, de plus de 100 départements, sans compter les alliés, les royaumes associés, etc. Et en quelque sorte, il y a le point de non-retour d'un système politique et donc militaire, puisque les deux sont complètement liés. Et la personne de Napoléon elle-même fait le lien, lui qui conduit les hommes, les armées et l'État. Il y a ce point de non-retour à partir duquel Napoléon ne peut plus suffire. il est central dans son système, et si lui fatigue, si lui ne peut pas être présent, parce que quand il est en Autriche, il n'est pas en Espagne, par exemple, tout se grippe.
Tout se grippe, d'autant que les adversaires, eux, ont aussi appris de leur défaite, et ils ont aussi regardé comment Napoléon fonctionnait.
Oui, les adversaires ont compris assez rapidement qu'il ne fallait pas affronter directement Napoléon. Ou alors qu'il fallait le faire dans un cadre un peu différent. Napoléon excelle, c'est vraiment le meilleur à une forme de guerre réglée où deux armées régulières s'affrontent dans un cadre codifié, établi. Si on sort de cette boîte-là, alors peut-être qu'il ne sait plus si bien penser que cela, et notamment à la fin de sa carrière. C'est le cas des Anglais qui ne l'affrontent que lorsqu'ils sont certains d'être en supériorité sur la mer, par exemple. C'est le cas des Russes qui, comprenant que Napoléon va viser une ville majeure, enfin une bataille majeure, puis la prise d'une ville indispensable, le laissent faire. Et en retraitant, ils étirent, ils laissent la grande armée s'étirer, ils l'obligent ensuite à quitter la ville, ils enflamment leur propre capitale historique, qui est Moscou, pour obliger Napoléon à se retrouver confronté à ses propres faiblesses et au pays qui tout entier est retourné contre lui, ce qu'on appelait le général hiver. En quelque sorte, oui, il est possible de vaincre Napoléon quand on utilise à son profit d'abord ses propres forces et aussi quand on sait manier les faiblesses de l'ennemi.
Il neigeait. On était vaincu par sa conquête. Pour la première fois, l'aigle baissait la tête. Sombre jour. L'empereur revenait lentement, laissant derrière lui brûler Moscou fumant. Il neigeait. Là, Privert fondait en avalanche. Après la plaine blanche, une autre plaine blanche. On ne connaissait plus les chefs ni le drapeau. Hier, la grande armée, et maintenant, troupeau. On ne distinguait plus les ailes ni le centre. Il neigeait. Les blessés s'abritaient dans le ventre des chevaux morts. Au seuil des bivouacs désolés, on voyait les clairons, à leur poste gelés, rester debout, en selle et muets, blancs de givre, collant leur bouche en pierre aux trompettes de cuivre. Boulets, mitrailles, obus mêlés aux flocons blancs pleuvaient. Les grenadiers, surpris d'être tremblants, marchaient pensifs la glace à leurs moustaches grises. Il neigeait toujours. La froide bise sifflait. Sur le verglas, dans des lieux inconnus, on n'avait pas de pain et l'on allait pieds nus. Ce n'étaient plus des cœurs vivants, des gens de guerre. C'était un rêve errant dans la brume, un mystère, une procession d'ombre sur le ciel noir. La solitude vaste, épouvantable à voir, partout apparaissait, muette vengeresse. Le ciel faisait sans bruit avec la neige épaisse, pour cette immense armée, un immense linceul. Et chacun se sentant mourir, on était seul. Sortira-t-on jamais de ce funeste empire? Deux ennemis, le Tsar, le Nord.
Et le Nord est pire. Hein, c'est le vers suivant, Émilie Robbe, de ce poème de Victor Hugo, extrait de L'Expiation et de son recueil Les Châtiments, dit par André Falcon. Est-ce que le Nord est pire? Est-ce que c'est l'hiver qui a battu Napoléon lors de la campagne de Russie?
L'hiver a sans doute achevé ce que le tsar et son armée avaient commencé, le général Kutuzov, qui a suivi Bagration, mais ils ont tous profité d'une certaine forme d'aveuglement et d'orgueil qui avait mené Napoléon jusque-là.
Oui, c'est-à-dire qu'il a péché par excès d'assurance, il se croyait invincible?
Il y a des chances qu'il ait fini par croire à l'histoire qu'il avait lui-même racontée depuis 10 ans, oui.
Oui, même chose d'ailleurs en ce qui concerne l'Angleterre, quoi, et son affrontement avec la marine anglaise et l'amiral Nelson.
Alors ça, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Il avait à ce moment-là beaucoup d'éléments pour imaginer que d'abord la bataille ne serait pas forcément si crucialement décisive pour les Anglais. Il avait l'alliance des Espagnols, de très nombreux navires provenaient de la flotte espagnole. En 1805, Napoléon est le plus fort en Europe. L'Angleterre est menacée. En 1812, l'empereur est déjà affaibli. Il n'arrive pas à vaincre en Espagne. Les batailles dans lesquelles il remporte la victoire impliquent un plus grand nombre de soldats, un plus grand nombre de morts et sont remportées de plus en plus difficilement. Les ennemis de Napoléon ne sont pas les mêmes et sa grande armée non plus. En 1813, par exemple, quand les ennemis ont tous compris qu'il fallait s'associer, que la loi des grands nombres irait dans leur sens en créant cette coalition, Napoléon a certes une armée nombreuse, mais une armée jeune, inexpérimentée, anéantie en Russie pour la plupart de ses forces vives, mais aussi pour ses chevaux, pour son matériel.
Et c'est dans cet état d'esprit-là donc qu'il arrive à Waterloo, alors après les 100 jours en plus, hein, donc il a perdu le pouvoir et puis
il l'a
gagné à nouveau. Et donc il se présente sur le champ de bataille de Waterloo. Pourquoi est-ce que ça ne marche plus, Émilie Reub? Parce qu'il est isolé?
Alors si ça ne marche plus, c'est effectivement cet isolement sans doute. C'est peut-être aussi la difficulté qu'il a lui-même à entraîner son armée, mais même si ça avait marché à Waterloo, ça se serait sans doute terminé à un autre moment et pas très longtemps après.
Parce qu'on a l'impression que Waterloo, ça se joue à finalement très peu de choses.
Oui. Et puis, c'est la même chose l'année d'avant. La campagne de France est une succession du côté de Napoléon de jolies victoires tactiques, mais aucune d'entre elles ne lui permet de gagner la guerre. Et les ennemis ont compris qu'il fallait aller prendre la capitale. Ils vont prendre Paris. À partir de là, Napoléon a perdu. Et ce qui se passe en Belgique, c'est une campagne de dernier baroud d'honneur. C'est là encore, Napoléon se dit, si je remporte cette campagne, peut-être qu'à nouveau, je pourrais retrouver la légitimité que je n'avais pas. Mais c'est un peu désespéré. Et ça n'est pas forcément bien coordonné, alors que les alliés, eux, ont su ordonner leurs forces, ont su être les plus forts à un moment donné et choisir le terrain.
Malgré la défaite finale, Émilie Reub, le stratège Napoléon continue aujourd'hui encore d'inspirer nos militaires?
Ça, c'est la toute dernière partie de l'exposition, en effet, celle où on a rassemblé autour d'un buste, le dernier, celui qui conclut, en tout cas temporairement, la galerie des grands hommes et d'État et de guerre, un arbre généalogique.
Généalogique militaire, de la pensée militaire,
qui permet d'évoquer les liens directs ou indirects qu'ont des stratèges du 19e, du 20e siècle à Napoléon. Et tous ces liens passent par deux théoriciens majeurs, Clausewitz d'une part et Jomini de l'autre, qui tous les deux ont interprété, théorisé l'art militaire selon Napoléon, puisque lui-même n'a jamais écrit de traité.
Oui, Clausewitz, qui n'aimait pas trop Napoléon, mais qui l'appelait quand même le dieu de la guerre.
Donc, le dieu de la guerre en personne, oui. C'était pas le seul, d'ailleurs, à l'appeler comme ça, mais c'est effectivement, ça nous permet de contrebalancer ce que je disais en début d'émission, Napoléon est humain. Il a aussi cet aspect-là, et c'est sans doute celui dont on se souvient le plus volontiers.
Oui, et puis il y a aussi les stratèges du 21e siècle, celles que vous accueillez dans l'exposition, parce que tous les visiteurs ont accès à des bornes avec des ordinateurs, et on a la possibilité comme ça de faire des choix, alors plus tactiques que stratégiques.
Souvent plus tactique, quelques bornes plus stratégiques. Oui.
Voilà, absolument. Mais donc, c'est vraiment aussi une exposition interactive.
Il y a 8 dispositifs dont vous êtes le héros, soit à la place de Napoléon, soit à la place de ses ennemis dans les coalitions, qui vous permettent de recevoir les renseignements, de prendre les bonnes décisions. Si vous ne prenez pas tout à fait la décision qu'a prise Napoléon, par exemple, celui-là vous expliquera pourquoi il valait mieux faire l'autre choix.
Oui, et on continue quand même dans le sillon de la victoire.
Hein. Oui, voilà. Il ne s'agit pas de réécrire l'histoire, parce que ce qui est l'intérêt de ces dispositifs, c'est de vous expliquer pourquoi ça a marché. Alors si on vous fait raconter une autre histoire qui n'a pas eu lieu, c'est bon, ça peut se faire, mais un autre endroit,
au musée de l'armée, même, on considère quand même et on assume donc la défaite de Waterloo, notamment puisque on se place donc du côté des vainqueurs.
À Leipzig, à Waterloo, on vous explique pourquoi Napoléon a perdu, effectivement, du point de vue des vainqueurs.
Merci beaucoup, Émilie Reub, de nous avoir accompagné aujourd'hui l'exposition Napoléon Stratège. C'est jusqu'au 22 juillet au musée de l'armée aux Invalides à Paris. Merci.
m'en direz des nouvelles sur RFI.
Direction Bruxelles, avant de se quitter, plus précisément le quartier de Molenbeek, au musée 2.0. C'est là que deux artistes suédois, Akai et Olabo, proposent Wonderland, un parcours ludique là aussi à travers leurs différentes trouvailles sur des chantiers, des immeubles laissés à l'abandon de la capitale suédoise, Stockholm. Deux artistes qui tiennent à rester anonymes car c'est par effraction qu'ils se sont introduits dans ces lieux avec un message, vive la désobéissance civile pacifique et vive le recyclage aussi. Notre correspondante à Bruxelles, Lakshmi Lota, a visité cette exposition pour nous.
Un portique de sécurité à l'entrée de Wonderland. Comme un voleur, chaque visiteur déclenche l'alarme en passant. Raphaël Kreut, commissaire de l'exposition.
Toute personne qui rentre au musée se voit attachée à un antivol. D'ordinaire, on est toujours très angoissé quand on sort d'un magasin à l'idée qu'il puisse sonner, parce que même si on n'a rien fait, on se sent coupable. Ici, le fait qu'il sonne, ça renverse l'idée. C'est au fond, on a payé notre ticket, donc ça renverse. On peut se réjouir pour une fois que l'antivol se mette à sonner.
Ce son, c'est la joie d'entrer par effraction. Il y aura d'ailleurs d'autres épreuves à passer tout au long du parcours ludique d'Akei et Olabo. Ici, des portes à tenter d'ouvrir, là des cadenas dont il faut retrouver le code. À l'étage, une cabane à explorer sur le toit d'une voiture. Il faut être curieux, courageux, aller au-delà des apparences. Ici, on peut toucher les œuvres. C'est encore un appel à la transgression. Raphaël Kreut.
Dans la transgression, il y a un plaisir. C'est aussi ça qu'ils essaient de nous communiquer. On peut non seulement toucher les œuvres, on peut aussi se faufiler dans les œuvres. Il y a des endroits, des cachettes. Il faut que le spectateur soit acteur et il ne peut l'être que dans le jeu.
Exemple, avec cette porte où il est écrit « accès impossible », elle s'ouvre tout de même et déclenche une belle alarme. Akei et Olabo sillonnent les rues de Stockholm à la recherche de lieux fermés, abandonnés, anciens métros, immeubles délaissés, chantiers terminés. Toute l'exposition est constituée de matériaux recyclés retrouvés sur ces lieux. Les artistes prônent le minimalisme, ils recyclent et disent ne pas avoir besoin de beaucoup pour vivre. L'essentiel est d'être libre, c'est la philosophie d'Akei.
Nous voulons vivre notre vie comme si c'était des vacances permanentes. Nous voulons être heureux à chaque fin de journée et nous y arrivons parce que nous vivons avec très peu. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de revenus pour vivre. Résultat, nous avons beaucoup de liberté et de temps libre.
Nous avons le droit d'aller au travail, le droit d'aller dans les boutiques, le droit d'acheter. Alors pourquoi n'aurions-nous pas le droit d'aller dans ces lieux fermés et le droit de ne pas acheter mais réutiliser ? Interroge les deux artistes. Au fil de l'exposition, on découvre leur collection, des clous, des scies, des palettes, des grillages. Raphaël Kreut, commissaire de l'exposition.
Il y a un côté dans leur travail naturaliste de l'environnement urbain. C'est vrai qu'à force de se faufiler sur des chantiers ou des maisons abandonnées, il y a une certaine récurrence dans tout ce qu'ils peuvent trouver. Par exemple, il y a des collections de scies. Apparemment, c'est un outil que les ouvriers perdent systématiquement sur les chantiers. Ici, on a une magnifique collection. Même chose pour des cadenas cassés. Donc, il y a énormément d'objets comme ça dans l'exposition, de collections, de petites collections qui sont présentées de manière assez inattendue.
Sur la terrasse, des morceaux d'échelles de chantier forment une nouvelle pyramide du Louvre, inattendue. En bas, une dizaine de caméras de surveillance sont braquées sur les visiteurs qui retrouvent leur image sur d'anciens téléviseurs cathodiques pris en flagrant délit de visite. Pour continuer à travailler et créer en toute liberté, les artistes, eux, ont choisi de rester anonymes.
Reportage de Lakshmi Lota à Bruxelles. Dans un instant, l'info sur RFI. On se retrouve demain avec Jean-Pierre Orban pour son nouveau roman « Toutes les îles et l'océan » paru au Mercure de France. Et vous m'en direz des nouvelles.